Aujourd'hui à l'émission, alcool au volant et nouveau chancelier allemand.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, dernier numéro du Monde d'aujourd'hui avant la trêve hivernale du temps des fêtes. Des merveilleux vœux et un joyeux Noël à vous et toute votre famille. Aujourd'hui, on reçoit deux invités, Marianne Ducereau de l'Association de la Santé publique du Québec, avec elle on va discuter d'alcool au volant, et Anthony James Steinhoff de l'UQAM, avec lui on discutera d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier de la République fédérale allemande. Notre première invitée du jour, c'est Marianne Ducereau, la présidente de l'Association de la Santé publique du Québec. Bonjour Madame Ducereau.
Bonjour.
Avec vous, on va revenir sur l'alcool au volant dans le temps des fêtes. Vous avez fait une sortie dans les médias, une lettre qui a été publiée dans la plupart des grands journaux québécois, Le Devoir, La Presse et le Journal de Montréal, pour parler de l'alcool au volant et de surtout la nécessaire changement de comportement que le Québec et que les Québécois doivent avoir par rapport à ce problème de santé publique. Tout d'abord, avant de revenir sur cette lettre en général, présentez-vous et présentez la mission de votre association.
Certainement. Je suis en fait avocate et chargée de projet et porte-parole. En matière d'alcool pour l'association, pour la santé publique du Québec. L'association est une organisation à but non lucratif qui regroupe partenaires citoyens pour finalement faire de la santé durable une priorité via des activités de prévention, de recherche et mobilisation. En gros, ce que cela veut dire, c'est qu'on souhaite, par des conseils, par la mobilisation et de la sensibilisation, s'assurer que les Québécois et Québécoises demeurent en santé le plus longtemps possible.
Oui, donc on est dans un travail de sensibilisation, un travail d'éducation, ce qui va être très intéressant pour revenir sur le sujet de l'alcool au volant. Donc, première question à propos de ce sujet, c'est pourquoi avons-nous encore du mal à comprendre les dangers de l'alcool au volant? Pourquoi il y a une sorte de latitude très forte dans le comportement des Québécois face à ça, où on va se dire que peut-être un ou deux verres, c'est pas très grave, alors qu'on sait que les facultés après sont quand même réduites?
C'est une excellente question de votre part, M. Coroner. D'une part, probablement réside dans notre approche et notre relation que nous avons à l'alcool. Culturellement et socialement, nous tendons à banaliser les risques et les conséquences de l'alcool. En matière d'alcool au volant, ce qui est particulier, c'est que bien que parfois certains messages passent ou que nous en rappelions, nous sommes restés avec l'idée que un taux d'alcoolémie de 0,08 puisse être sécuritaire. Pourtant, la science tend à nous démontrer de plus en plus le contraire. Et culturellement, puisque c'est bien vu en quelque sorte de consommer, on sous-estime certains effets et les conséquences, on a peut-être tendance à banaliser un peu notre état passé un certain niveau.
Vous avez parlé du taux de 0,08. J'allais vous poser une question plus loin dans l'entrevue, mais néanmoins, on peut la poser directement. Mais pourquoi ce taux donne un faux espoir, une fausse image par rapport à la sécurité dans la consommation avant de prendre la route? Et pourquoi potentiellement ce taux devrait être réduit afin de prendre en compte la connaissance scientifique sur le sujet?
Oui, mais en fait, les études ont montré dans les dernières années qu'entre 0,05 et 0,08 d'alcoolémie, les risques de causer un accident ou d'être impliqué dans un accident mortel sont de 4 à 6 fois plus élevés que sous le 0,05. Donc, de se dire que c'est un, comme en bon québécois, je suis bien correct à 0,08, mais pas nécessairement. On est à risque et on met à risque d'autres personnes davantage. Et en plus, il faut pas oublier que des fois, notre taux d'alcool peut varier. Notre réaction à l'alcool peut varier d'une journée à l'autre également entre individus.
Pour remettre dans le contexte aussi et pour aussi bien faire comprendre à nos auditeurs, surtout avant le temps des fêtes, les effets de l'alcool sur nos facultés, notre capacité à conduire. Donnez-nous un peu des images, ou plutôt, on le sait déjà, mais remettez un peu des images
un peu
sur...
En contexte.
C'est toujours bien de rappeler un peu les effets de l'alcool sur nos capacités à conduire.
Exact, on ne le répétera jamais assez.
C'est ça.
L'alcool est une substance psychoactive. Ce que cela veut dire, c'est que ça vient toucher nos facultés cognitives et notre perception. Donc, par exemple, en termes de conduite automobile, ça peut augmenter notre temps de réaction, aussi augmenter notre témérité, également une baisse d'attention, vision embrouillée. Donc, toutes des caractéristiques ou des effets non désirés lors de la conduite automobile.
L'autre question que je voulais vous poser sur le sujet, c'est à propos des chiffres, des interpellations, et surtout les chiffres au niveau de l'alcoolémie au volant pendant le temps des fêtes. J'avais pu lire dans votre des chiffres quand même assez aberrants dans votre lettre, au niveau de plus de 4000 interpellations et 4000 personnes prises en état d'ébriété en moyenne, ce qui est à l'échelle du Québec quand même assez énorme. Pourquoi on se contente, on dit « Ah, c'est pas très grave, il n'y en a pas beaucoup finalement. » Et pourquoi c'est le mauvais comportement à adopter, surtout quand on sait à quel point les accidents et donc les potentiels de blessures à long terme et aussi de pouvoir mourir de l'alcool au volant sont encore plus forts au temps des fêtes quand on conjugue alcoolémie et état des routes.
Oui, tout à fait. Vous avez raison de parler de l'état des routes. Jusqu'à ce jour, pour 2021, on dénombre plus de 4500 arrestations pour motif d'alcool au volant. Malgré la pandémie. Et ça, c'est sans compter peut-être les centaines de personnes non plus qui ne sont pas interceptées, qui ne se sont pas fait prendre. Donc, ce chiffre est probablement, donc ça sous-estime toutes ces personnes-là. La question de savoir pourquoi ou est-ce que ce chiffre est aberrant, mais c'est sûr que c'est très décevant qu'après toutes ces années de sensibilisation, on en soit toujours à répéter ce message. Et c'est là que je veux ramener que socialement, mais il faut qu'on prenne conscience, oui, individuellement, mais également collectivement, que nous devons changer nos habitudes, mais également peut-être l'environnement dans lequel nous baignons.
C'est à partir de là, ça... Ouh, pardon, excusez-moi.
Oui. Oh non, allez-y.
Donc à partir de là, ça nous mène au problème potentiel d'éducation et de sensibilisation de la part d'État québécois et de ses moyens de communication. Est-ce qu'il y a un message de prévention qui ne passe plus?
Je crois que le message ou les campagnes, par exemple, de la Société d'assurance automobile du Québec sont présentes. Certaines données montrent que ce sont parmi les campagnes qui sont les plus retenues par les Québécoises et Québécois. Par contre, est-ce que nous banalisons des fois ces effets? C'est vraiment toute la question de la norme sociale, regard à l'alcool. Et c'est là que l'État québécois peut peut-être faire plus. Il faut vraiment changer nos milieux, que ce soit par notre milieu législatif, que ce soit notre encadrement, pour essayer que les gens prennent conscience que, peut-être qu'on sous-estime les effets. Peut-être que ce serait peut-être bien qu'on voit un peu moins d'alcool un peu partout, que ce soit les publicités sur les bords des autoroutes, ou qu'on favorise dans nos messages d'éducation les moments que une soirée ou un party, comme on dit, peut être agréable sans alcool.
Au niveau aussi de les réformes qui peuvent être faites, outre les réformes en matière d'éducation et de sensibilisation, qu'est-ce que vous préconisez aussi comme réforme peut-être sur les moyens coercitifs de l'État québécois pour mieux faire comprendre la nécessité de maîtriser son niveau d'alcool avant d'aller en voiture?
Bon, on en a discuté déjà de faire passer la limite à 0,05 au lieu de 0,08 au Québec. Donc, sans que ce soit un dossier criminel, que la province mette des sanctions pénales et administratives à partir de 0,05, comme d'ailleurs l'ont fait toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec. Et ensuite, bien évidemment, lorsqu'on met une telle mesure, il faut pouvoir l'appliquer et la faire respecter. Donc peut-être est-ce que là, ce serait davantage de barrages ou d'autres moyens, et évidemment de l'éducation et de mettre une image positive ou favoriser les autres moyens pour pour ne pas boire au volant et de mesurer notre alcoolémie.
Même si ce n'est pas votre organisation, mais au niveau des bonnes nouvelles, est-ce que vous êtes contente, par exemple, malgré le fait que potentiellement on va nous annoncer ce soir que moins de convives seront autorisés à Noël, voire beaucoup moins, mais est-ce que vous êtes heureuse de voir que, par exemple, l'association Nez Rouge reprend son programme de réaccompagnement ce Noël? Est-ce que vous êtes heureuse de voir quand même que de plus en plus de personnes semblent comprendre ou semblent vouloir aussi améliorer les choses et faire provoquer, comme vous, une évolution rapide des mentalités pour diminuer ces dangers et ces potentiels, ce potentiel négatif sur la part des conséquences humaines et matérielles de l'alcool au volant au Québec?
Mais c'est certain, c'est certain. On ne peut que se réjouir que de telles initiatives prennent place. Nez Rouge, en fait, c'est que ça permet à chaque individu, lorsqu'on a une fête, de se dire, bon, bien, de prendre à l'avance et de se dire, bon, mais comment je retourne chez moi si je ne suis pas en état, ou je prévois avoir pris peut-être un peu plus qu'un verre ou deux. De quelle manière je reviens? Donc, c'est certain que c'est une excellente nouvelle. Ça multiplie les occasions et les moyens pour éviter de conduire avec les facultés affaiblies et éviter des conséquences qui sont évitables en bout de ligne.
Vous, Marianne de Sureau, est-ce que vous êtes confiante pour l'évolution rapide des mentalités?
Je veux rester positive. Je veux rester positive dans cette histoire. On n'a pas le choix. Je crois que oui, on a pris quand même conscience, on a vu l'importance de la santé dans la dernière année et demie et à quel point c'est la vie est précieuse. Donc je souhaite que ce mouvement peut-être vienne aussi de se dire ben changeons collectivement, c'est peut-être un moyen de se dire changeons nos habitudes. Prenons de bonnes habitudes pour notre santé et ça peut passer par ce regard à l'alcool. Et éviter des conséquences et de la culpabilité pour certaines pour les années à venir.
Merci Marianne de Sureau d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Mais c'est moi qui vous remercie et soyez prudents et fêtez prudemment.
Merci beaucoup et fêtez prudemment aussi pour tous nos auditeurs. J'espère que le message est bien passé. Je rappelle que vous êtes chargée de projet alcool à l'Association pour la santé publique du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de pouvoir vous réavoir à l'émission.
Le plaisir est pour moi.
Notre deuxième invité, c'est Anthony James Steinhoff de l'UQAM. Bonjour, monsieur Steinhoff.
Bonjour.
Donc, avec vous, on va discuter de la personnalité et de la politique du nouveau chancelier de la République fédérale allemande, Olaf Scholz. Tout d'abord, qui est Olaf Scholz?
Alors, c'est bien entendu un membre du Parti social-démocrate allemand, chef du file, on peut dire, du parti. C'était un proche du dernier chancelier allemand social-démocrate, Gerhard Schröder. Il était aussi ancien maire d'Hambourg et aussi très important dans les derniers gouvernements Merkel. Il était à la fois le ministre des Finances et le vice-chancelier. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la politique du gouvernement Merkel, qui a été aussi fortement impliqué dans les dossiers parmi les plus importants.
Au niveau de son emplacement dans le cadre du gouvernement Merkel, est-ce que malgré le fait qu'il était vice-chancelier du gouvernement Merkel, est-ce qu'il va pouvoir impliquer un véritable changement de politique ou est-ce qu'on va être dans le cadre d'une continuité politique avec les derniers gouvernements Merkel?
Alors, c'est une excellente question. Alors, d'une part, certainement, il y aura des signes de continuité. Donc, pendant la campagne électorale, il a souligné le fait qu'il serait effectivement le meilleur successeur à Merkel, au lieu du candidat même chrétien démocrate. Donc, son pragmatisme, sa volonté de bien gérer le pays selon les faits et pas seulement sur des bases idéologiques. À ce niveau-là, on peut voir certainement de la continuité. Les bases de la politique allemande, surtout sur le plan des affaires étrangères, là aussi, il y a des accords très importants entre les chefs CDU et SPD. Mais la coalition gouvernementale est quand même assez différente.
C'est ça. C'est que c'est une coalition qui est très à gauche, ou plutôt social-démocrate, avec les Verts et le SPD qui constituent le gros de cette coalition.
Oui, justement. Donc, parmi les partenaires, donc, nous avons les Verts, nous avons aussi les libéraux et les néolibéraux, des groupes qui, pendant les tractations pour la formation du gouvernement de coalition, étaient tous d'accord que l'Allemagne a besoin d'un certain renouveau. Donc, ils ont même repris un peu l'ancien slogan de Willy Brandt, donc le premier chancelier allemand, c'est un social-démocrate. Donc, on va pas seulement oser plus de démocratie, mais oser le progrès. Donc, il y avait l'idée que chez Merkel, pendant la période de Merkel, il manquait un peu de vision, d'attention aux infrastructures, à la vision sociale même du pays. Et c'est justement là où il y avait un fort consensus entre les partenaires.
Au niveau de cette idée de progrès, c'est assez drôle parce que M. Olaf Scholz considère que sa coalition est une coalition de progrès. Mais est-ce que tout cet aspect de progrès, volonté de proposer plus d'avancements démocratiques et plus d'avancements sociétaux, est-ce que ça participe aussi à lui donner cette personnalité rassurante que les médias allemands semblent voir en la personnalité de M. Scholz?
Alors, je pense que oui. Comme il a dit, manière de voir les choses pour lui, il veut pas tout simplement changer tout ce qu'il voit, mais véritablement améliorer les choses. Donc, c'est une petite nuance, mais déjà là, il ne veut pas bouleverser tout ce qui a été fait, tout ce que est véritablement fait partie du succès allemand. Autrement, autre élément dans tout cela, c'est comme je viens de mentionner, le pragmatisme. Donc, c'est un homme qui est assuré lui-même des possibilités de comment faire avancer les dossiers. Et le fait que il voit l'avenir de l'Allemagne justement dans une ligne de progression sur les bases déjà établies sur Merkel. Donc personne ne s'attend à ce que tout serait, comme je viens de dire, bouleversé. Oui, justement.
Aussi au niveau du plan intérieur, il souhaite aller dans une sorte de continuité, mais avec plus d'amélioration donc, sur les aspects sociétaux et autres. Là, en ce moment, l'Allemagne, c'est beaucoup aussi en question la politique européenne, la relation franco-allemande, et surtout sur le plan international, sa position un peu tiraillée entre les États-Unis et la Russie au niveau des questions gazières. Tout d'abord, sur la politique européenne, est-ce qu'il va avoir une continuité avec la politique européenne de Merkel, ou est-ce qu'on va vraiment être plus dans une véritable volonté de vraiment reparticiper comme il faut au fonctionnement de l'Europe et ne pas vouloir avoir une position hégémonique, quitte à tirailler, voire mettre en colère les divers partenaires européens?
Oui, alors certainement, c'est clair que finalement, Merkel était aussi pour l'Europe, même si retenu une vision peut-être un peu plus étroite de ce qui était l'Europe. Alors, pour Scholz, il est véritablement européaniste convaincu. Récemment, il a rendu visite à Paris comme la belle expédition l'a voulu. Son ministre des Affaires étrangères, Baerbock, en fait, voulait avoir la première visite, pas à Paris, mais plutôt à Bruxelles, justement pour souligner l'importance de l'Union européenne pour cette Allemagne. Donc, nous avons, surtout chez les Verts, des gens qui sont expressément pour l'Europe, mais aussi lors de la rencontre entre Macron et Scholz. Scholz a montré l'ouverture de l'Allemagne à reconsidérer, voire renforcer les bases de l'Europe, donc de voir un peu de plus d'intégration européenne, de revoir au besoin même les fondations des institutions européennes, ce qui, étant donné aussi le Brexit, ne sera pas complètement négligeable.
C'est ça. Au niveau aussi de la relation franco-allemande, donc on voit M. Scholz a pu aller visiter M. Macron directement après son élection. Est-ce que la relation franco-allemande pourrait avoir un nouveau départ avec M. Scholz, plus de vitalité et plus de coopération entre les deux pays?
Je pense que oui, parce que M. Scholz a déjà posé les bases pour une telle un tel virage. Donc, on ne doit pas oublier, avant de rejoindre le gouvernement de Merkel, il a été aussi le chargé des affaires franco-allemandes. En tant que maire d'Hambourg, il a relancé aussi des projets plutôt au niveau municipal entre Paris et Hambourg. En tant que ministre des Finances, il a déjà commencé une période importante de collaboration avec les ministres des Finances français. Et il a été assez discret à cet égard, mais Macron a exprimé sa préférence pour Scholz pendant la campagne électorale.
Oui, donc, il savait qu'avec lui, ça serait plus simple de pouvoir travailler sur leur projet commun.
Exactement.
Sur le plan international, par contre, M. Scholz, il va être probablement tiraillé, comme on le disait, entre les États-Unis et la Russie par le projet de gazoduc Nord Stream 2. C'est quand même une des grosses questions en ce moment en Allemagne. Est-ce que ce gazoduc va se faire, ou plutôt va finir de se faire, et à quel prix, quand on sait les diverses tensions qui existent en ce moment en Europe entre la Russie et l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que M. Scholz va être capable de naviguer dans ce dossier complexe?
Alors, bien entendu, ça sera un peu difficile. Dans le contrat de gouvernement, on a dit on va faire avancer le projet. Étant donné les besoins énergétiques de l'Allemagne, ils ont fortement besoin de l'accès au gaz russe. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre option véritablement. Mais, si étant dit, les VAR, déjà la ministre des Affaires étrangères, Robert Bloch, son parti était opposé à cet oléoduc. Donc, finalement, elle a signé le contrat, mais chez les Verts, donc, un bon bloc dans la coalition, il s'avère plutôt tiède par rapport à ce projet. En ce qui concerne les Américains, pour eux, c'est plutôt, ils veulent avoir une sorte de compromis où l'OTAN au moins sera impliqué comme partenaire pour assurer que les soucis, les préoccupations les plus importantes de Washington sera considérées. Mais même au côté russe, d'une part, de façon générale, le nouveau gouvernement s'avère plus prêt à réagir aux pays autoritaires, donc de vouloir restreindre un peu l'influence de Poutine, mais en même temps, il y a la crise qui se présente, crise potentielle avec l'Ukraine,
c'est ça.
Où on conseille plutôt des négociations pour éviter le conflit.
Et qui impose encore plus de pression sur le dossier.
Donc, on peut bien imaginer de la part de la Russie, peut-être on va se retirer les troupes de la frontière avec l'Ukraine pour assurer que le projet d'oléoduc se réalise. Donc, fin de compte, ça reste un dossier énormément compliqué, je ne vois pas comment, en fin de compte, Scholz, l'Allemagne peut se renoncer à sa réalisation.
Surtout au point où il en est arrivé, où ça en est réalisé, quand on sait que le gazoduc est quasiment totalement construit. Dernière question, quel est le sentiment des Allemands face à ce changement de gouvernement qui est quand même assez inédit depuis des années? Et surtout, comment inscrire ce sentiment dans le moule du changement de la carte électorale, où on a pu voir un recul quand même de la CDU, l'ancien parti de Merkel, et un échec du chef qui lui a succédé, qui avait aussi enchaîné les bourdes, on se souvient, pendant la campagne, et des bourdes sanitaires, on va se le dire, et surtout un recul de l'extrême droite et de la droite populiste aux dernières élections.
Oui, alors, de façon générale, je pense, ou me semble, de toute façon, c'est assez tôt, que la population allemande est bien contente avec le changement. Il s'est déroulé finalement sans des grandes inquiétudes. Même il y avait des gens qui ont imaginé que ça sera quelques mois avant que le pacte de coalition soit signé. Et finalement, on l'a fait si rapidement que Merkel n'était pas en mesure de dépasser le record pour longévité en tant que chancelière de Kohl. Donc déjà là, c'est un bon signe. Je pense aussi le fait que Scholz se présente comme un bon gestionnaire, bien raisonné, raisonnable, etc. Ça, comme vous avez évoqué plus tôt, ça rassure la population allemande. Et en fait, il va profiter effectivement des activités de Merkel, qui finalement, c'est plutôt sur son compte qu'on doit dire le recul ou annoncer le recul, pas seulement de la droite, donc l'AfD, mais d'une certaine manière aussi de la gauche extrême. Donc, sur les deux côtés, la dernière version de la grande coalition a réussi justement de renforcer le centre au fait des extrêmes.
Donc, s'il a permis de un peu rationaliser la carte électorale et calmer un peu certaines ardeurs qu'il pouvait avoir dans la population et donc rassurer les gens.
Exactement. Et donc, si la coalition réalise, ou enfin, plutôt réussit à faire fonctionner le gouvernement, ils peuvent bien sûr attendre un deuxième mandat.
Oui, totalement.
Donc, malgré tout, la nouveauté de cette coalition, si ça va effectif, efficace, ça sera finalement aussi un bon chose.
Ouais. Merci. Merci beaucoup, M. Stanov, d'avoir produit nos questions ce midi.
Je vous en prie, avec plaisir.
Merci. Je rappelle que vous êtes professeur à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir de pouvoir vous revoir à l'émission.
Moi aussi. Merci.
Merci beaucoup. C'est tout pour cette première saison du Monde d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses entrevues et ces incroyables sujets qui ont pu vous être proposés tout au long de ces derniers mois. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, début janvier, pour un retour au Monde d'aujourd'hui avec de nouvelles émissions et de nouveaux contenus qui, je l'espère, sauront toujours vous convenir. Je vous souhaite, comme dit au début d'émission, de merveilleux vœux et un merveilleux temps des fêtes. Faites attention à vous et à votre santé. On se retrouve le mois prochain. Passez un bon Noël et un bon temps des fêtes.